Et ce matin, pour conclure notre série, je vais attaquer directement sur notre sujet. Et je vais commencer par une déclaration forte que Jésus a faite il y a plus de 2000 ans déjà. Jésus a fait une déclaration forte il y a plus de 2000 ans, une déclaration qui est puissante et remplie d'espoir pour nous encore aujourd'hui. Et cette déclaration pleine d'espoir et de vie se retrouve en Jean au chapitre 11 et au verset 25, où Jésus nous dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. » Et je trouve ça tellement important qu'on termine notre série en chemin vers la résurrection et qu'on puisse voir ensemble cette magnifique déclaration que Jésus nous a dite ici, je suis la résurrection et la vie. Maintenant, peut-être que toi, tu es là pour là ou les premières fois, puis depuis le début de la journée, depuis le début de la matinée, on parle de la résurrection. Mais tu sais pas ce que ça veut dire, résurrection. Alors rapidement, une courte définition très simple de ce que c'est la résurrection, c'est quand quelque chose meurt et qui revient par la suite à la vie. Ça meurt et ça revient à la vie. Un peu, je ne sais pas si vous avez vu le film des Avengers, un peu comme dans les Avengers, où à un moment donné, tu as un méchant qui arrive, il s'appelle Thanos, et puis en un claquement de doigts, il tue la moitié de l'univers. Puis dans le film suivant, désolé si vous ne l'avez pas vu, je vous spoil un petit peu. Dans le film suivant, tous les super-héros se regroupent tous ensemble pour aller affronter Thanos et pour essayer de faire ressusciter, pour ramener à la vie tous ceux qu'il avait tués précédemment. Ça veut dire ça, la résurrection, que quelque chose qui était mort revienne à la vie. Et cette déclaration puissante de Jésus, il faut qu'on la réalise, il faut qu'on la prenne dans le contexte dans lequel il l'a faite. Et on va voir ensemble le contexte de cette phrase ce matin. Il faut savoir qu'à ce moment-là où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », il vient d'apprendre que l'un de ses meilleurs amis vient de mourir. C'est ça le contexte. Et on va voir ensemble justement le chapitre 11 qui nous parle de ce récit, de ce moment clé. Et après avoir étudié pendant plusieurs heures, j'ai lu des centaines de pages, des dizaines de pages, plutôt pas des centaines, ça m'aurait mis encore une éternité, mais au moins des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages sur le sujet. Et je me suis rendu compte à quel point il était facile de faire au moins 4, 5, 6 messages juste sur ce chapitre-là. Mais je vous rassure, j'ai essayé de condenser un maximum de choses pour pas vous garder plus de 3 heures ce matin. Il y en a qui en veulent. Là-bas, pas sûr, par contre. Ne vous inquiétez pas, on va essayer d'être court, rapide, concis et on va tenter de décortiquer justement ce chapitre en ciblant quelques versets clés. Et on va commencer avec le verset 1. Justement, le verset 1 qui nous pose la base du chapitre 11. Et il est écrit qu'il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, qui était dans le village de Marie et de sa sœur Marthe. Et au verset 3, il est marqué que les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et on va s'arrêter rapidement ici. Il faut qu'on comprenne qu'il y avait un lien fort avec Jésus et cette famille. Il y avait un lien d'amitié très très fort. On suppose que Jésus a passé plusieurs journées chez eux. Jésus aimait passer du temps chez eux. On suppose même que Marthe et Marie avaient sûrement entendu les récits extraordinaires de guérison, de miracles que Jésus avait accomplis. Marthe et Marie connaissaient Jésus. Ils aimaient Jésus. Ils s'aimaient mutuellement. Puis quand leur frère tombe gravement malade aux portes de la mort, leur premier réflexe, c'est d'appeler Jésus à l'aide. Puis remarquez ici ce qu'elles disent. Elles viennent dire à Jésus, « Jésus, celui que tu aimes est malade. » Et elles ne disent pas, Seigneur, celui que tu aimes est malade, alors viens vite le guérir. Elles ne disent pas non plus, hey Jésus, celui qui t'aime est malade. Celui qui t'a ouvert sa maison est malade. Celui qui t'a fait des bons petits plats quand tu venais chez nous est malade. Celui avec qui tu rigolais tous les soirs est malade. Celui qui te faisait couler un bain après une grande journée de marche est malade. Celui qui a donné son argent pour toi, pour t'aider dans ton ministère est malade. Marie et Marthe auraient pu faire appel à Jésus sur la base de la valeur de Lazare, sur les mérites de Lazare. Mais au lieu de ça, elles font appel à Jésus sur la base de son amour pour Lazare. Celui que tu aimes est malade. Puis, je vais faire une courte parenthèse ici pour l'Église, ici, rapidement. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que la maladie ne va pas te frapper, que les épreuves ne vont pas te frapper, que les difficultés ne vont pas venir frapper à ta porte. Ce n'est pas parce que Jésus t'aime que tu vas vivre une vie sans douleur et sans maladie. On vit dans un monde qui est brisé par le péché. On vit dans un monde, dans une réalité où la vie fait qu'on tombe malade. On est atteint par toutes sortes de choses, c'est la vie. Oui, des fois c'est des attaques et des fois c'est juste la vie. Même si Jésus nous aime. C'est un prédicateur qui a dit un jour, l'amour de Jésus ne nous sépare pas des nécessités communes et des infirmités de la vie humaine. Les hommes de Dieu restent des hommes. L'alliance de la grâce n'est pas une charte d'exemption de la maladie. Ce qui veut dire ici, c'est qu'on va vivre des difficultés. On va vivre des problèmes, on va vivre des maladies. Et peut-être que tu as envie ce matin. Tu es dans cette situation-là ce matin. Tu es dans cette situation-là puis tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu réalises pas, tu es un peu déboussolé par tous les événements qui sont en train de te tomber dessus. J'aimerais commencer cette prédication par te dire que peu importe ce qui se passe dans ta vie, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Même si tu es en doute, rappelle-toi que Pâques, c'est bien plus que du chocolat. Pâques, c'est plus qu'une chasse au coco. Pâques, c'est la preuve d'amour de Jésus pour toi. Tu es celui que Jésus aime. Tu es celle que Jésus aime. Mais ce n'est pas parce que Jésus t'aime qu'il va forcément agir comme tu le penses. Parce que si Jésus devait rencontrer toutes tes attentes, alors il n'aurait jamais l'occasion de te surprendre en les surpassant. Ok, alors à la première réunion, ils étaient tous en feu à ce moment-là. Je m'attendais à ce qu'à la deuxième, on soit encore plus réveillés, que ce soit extraordinaire. Vous avez été un peu refroidis. Est-ce qu'on va la refaire? On va la refaire, d'accord? Peut-être comme si c'était la première fois que vous l'entendez cette phrase-là. On va la refaire. Si Jésus devait rencontrer toutes tes attentes, alors il n'aurait jamais l'occasion de te surprendre en les surpassant. Ça sonnait un peu faux quand même. Jésus surpasse nos attentes. Ce qu'il fait est surprenant. Même si on ne comprend pas pourquoi toutes ces situations nous arrivent, Jésus fait des choses étonnantes. Et ici notamment, il fait quelque chose qui est surprenant, Jésus. Regardez au verset 5. Il est écrit « Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. » Encore une fois, on nous rappelle l'amour de Jésus. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il y alla tout de suite et alla guérir Lazare. Non, c'est pas ça qui est écrit. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée, autrement dit, allons voir Lazare. » Puis quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Oups. C'est étonnant ici ce que Jésus fait. On nous rappelle encore une fois l'amour de Jésus pour Lazare. Il n'y a aucun doute là-dessus. Jésus aimait Lazare. C'est la raison pour laquelle il est parti en retard. C'est peut-être pour ça que certaines personnes arrivent en retard le dimanche matin à l'église, parce qu'ils aiment Jésus. Je fais comme Jésus, j'arrive en retard. Je plaisante, ça concerne personne ici, personne n'arrive en retard le matin. Pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi Jésus part 2 jours en retard? Puis en étudiant le texte, je me suis rendu compte de quelque chose que je n'avais jamais fait attention. Mais si Jésus était parti à l'heure, pile au moment où il reçoit l'information, si Jésus s'était mis en route immédiatement, il serait quand même arrivé en retard. Lazare aurait été dans le tombeau depuis 2 jours. Non pas 4, mais depuis 2 jours. Mais Jésus quand même prend son temps. Pourquoi il prend son temps? Pourquoi est-ce qu'il a pris son temps? En fait, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une superstition juive qui disait que lorsqu'une personne venait à mourir, son âme planait au-dessus du corps pendant 2-3 jours avant de s'en aller définitivement. Puis pour les juifs, quand l'âme s'en allait définitivement, ça voulait dire que la mort était irréversible. Ce qui signifie ici que Jésus a retardé exprès son départ de 2 jours pour casser cette fausse croyance, pour casser cette fausse conception. Il voulait montrer que le miracle venait de lui et pas d'une superstition que les gens croyaient. Voilà pourquoi Jésus, ce qu'il fait là, c'est étonnant. Il y a toujours une raison pour laquelle Jésus agit d'une façon. Et ici donc Jésus arrive devant le village. Et Marthe et Marie sont dans le désespoir. Elles sont au fond du gouffre. Elles sont dans le deuil. Elles viennent de perdre leur frère. Leur frère est mort depuis 4 jours alors qu'elles ont fait appel à Jésus. Ça ne fait aucun sens pour elles. Ça ne fait aucun sens pour elles. Le verset 20 nous dit que quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie restait assise à la maison. Peut-être que tu es comme Marie ce matin. Tu dis, ça sert à rien que je bouge. Ce matin, je suis là, mais c'est juste pour faire figuration. C'est mort à l'intérieur de moi. Je suis mort dans mon désespoir. Je suis mort dans mes doutes, dans mon attente. J'ai plus d'espoir. J'ai aucun espoir que ma situation ne change. Mon couple ne changera pas. Ma vie ne changera pas. Mon mariage, plus rien. Je n'ai plus aucun espoir. Peut-être que plusieurs sont comme Marie ce matin et qui ne veulent plus bouger. Vous ne voulez plus espérer en ce soi-disant Dieu d'amour. Ça ne fait pas de sens pour vous. Vous préférez être en retrait, assise, comme Marie. Mais Marthe, elle se lève. Elle a des choses à dire à Jésus. Fait qu'elle y va. Puis elle commence à dire à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors que Marie reste dans le découragement, Marthe vient le poing levé. Si tu étais vraiment amour, si tu aimais vraiment Lazare, t'aurais pas permis à ce que ça arrive. Si tu es vraiment Dieu, il serait encore vivant. Si tu nous aimais vraiment, il serait encore vivant. Peut-être que toi, tu te dis encore la même chose. Si Dieu m'aimait vraiment, j'aurais pas perdu ma job. J'aurais pas eu cette mauvaise nouvelle cette semaine. Je serais pas tombé malade. Si Dieu s'intéressait vraiment à moi, il prendrait soin de mes enfants. Si Dieu était vraiment Dieu, il n'aurait pas permis à ce que je vive tout ça. Elle le pointe du doigt. C'est ta faute, Jésus. Je t'ai appelé et t'es venu en retard. J'ai fait appel à toi et t'es pas venu. Et ce qui est encore une fois étonnant de la part de Jésus, c'est qu'il ne la coupe pas. Il accueille. Il accueille la colère. Il accueille la frustration. Il accueille la déception. Il accueille l'incompréhension. Il accueille tout ce que Marthe crache. Il accueille sans rien dire. Et je crois que c'est une leçon pour nous à apprendre aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de mal à exprimer sa frustration, son incompréhension à Dieu. Le danger, c'est de le faire en lui tournant le dos. Parce qu'alors que tu lui tournes le dos et que tu rumines en toi tout ce qu'il n'a pas fait, tout ce que tu ne comprends pas, toute la frustration que tu as, ça vient gangréner, ça vient créer une amertume, ça vient de créer une distance entre toi et lui. Alors que si tu viens à lui et que tu commences à lui exprimer tes incompréhensions, tes doutes, tes peurs, ta frustration, ta colère, Jésus va non seulement accueillir, mais il va amener quelque chose d'autre derrière. Il va accueillir pour te donner quelque chose de différent derrière, pour te changer ton focus. Mais ça peut se faire seulement si tu es dans sa présence. Et regardez la réponse de Jésus justement à Marthe ici. Verset 23, Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Et Marthe lui répondit, je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts au dernier jour. Je connais ma Bible, Jésus. Merci pour ça. Mais Jésus lui dit ici, non, non, tu ne comprends pas, Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Marthe croyait à raison. À une résurrection pour plus tard. Et elle a raison d'y croire. Nous aussi, nous croyons aujourd'hui à une résurrection lorsque la mort va venir nous frapper. Nous croyons, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, que nous allons ressusciter avec lui. Nous croyons cette résurrection pour plus tard. Mais Jésus veut te faire comprendre ce matin que la résurrection, ce n'est pas un moment de l'histoire. La résurrection, ce n'est pas un moment de l'histoire du futur, ce n'est pas non plus un événement du passé où tu regardes la Pâque, tu regardes la croix, tu regardes la résurrection de Jésus, tu dis, c'est que pour le passé. La résurrection, ce n'est pas un événement dans l'histoire. La résurrection, c'est une personne. Son nom, c'est Jésus. La résurrection, c'est une personne. Ce n'est pas pour le passé, ce n'est pas pour l'avenir, c'est pour maintenant, aujourd'hui, dans ta vie, dès maintenant. Jésus peut être ta résurrection. Jésus peut être ta résurrection pour aujourd'hui. Jésus peut être ta vie aujourd'hui. La vie parfaite que tu rêves d'avoir, elle ne se trouve pas dans ton passé, où tout allait bien avant, où mes finances allaient bien. Bon, avant, c'était parfait, mon mariage allait bien. Avant, c'était parfait, ma job allait bien. Avant, tout était beau, j'étais innocent, je ne comprenais pas tout à la vie, mais j'étais heureux. Ça, l'époque d'avant, c'était parfait. J'étais en forme, j'étais en santé, tout allait bien avant. La vie, la plénitude de vie, ça ne se trouve pas non plus dans le futur. Ah, quand tout ça sera réglé dans ma vie, enfin je me sentirai apaisé. Enfin j'aurai la paix. Enfin j'aurai plus les angoisses. Si tout ça se règle, si enfin je trouve un nouveau job, un nouveau salaire, là je serai heureux. Jésus veut te dire aujourd'hui que la plénitude de la vie peut se trouver aujourd'hui, parce qu'il est la vie maintenant. Il est la résurrection et la vie maintenant. La plénitude de la vie se trouve en Jésus dès aujourd'hui. Jésus est la résurrection et la vie maintenant. Jésus peut amener une résurrection dans ton mariage maintenant. Jésus peut amener la vie dans ton couple maintenant, la paix à tes enfants, la paix dans ton cœur maintenant. Jésus peut amener la vie et la résurrection dans ta vie maintenant. Il peut amener une résurrection spirituelle maintenant. Parce que c'est ça aussi qui parle ici. C'est ça le plus important. C'est pas juste que toute la vie soit belle, parfaite, qu'on soit plus malade. Non, non. Le plus important, la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour te sauver la vie spirituellement maintenant. Pour te donner une résurrection spirituelle maintenant. Maintenant. Rien ne reste mort quand Jésus entre dans la pièce. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin. Je ne sais pas à quel point tu peux te sentir déprimé, découragé. Je ne sais pas les blessures que tu as vécues, la souffrance que tu peux ressentir. J'ignore à quel point tu te sens abandonné de ta famille, de tes proches, à quel point même tu te sens abandonné de Dieu peut-être aujourd'hui. J'ignore tout ça, mais ce que je sais, ce que je vais te faire réaliser aujourd'hui, c'est que Jésus peut être ta résurrection et ta vie ce matin. Jésus t'aime, Jésus a conscience de ta souffrance. Jésus n'est pas insensible à ce que tu vis. Regardez ce que nous dit la Bible, alors que Jésus va voir tout ça, il arrive à un moment donné devant le tombeau de Lazare, le tombeau de son ami, où la pierre est roulée, il y a une pierre devant le tombeau de Lazare, il arrive devant ce tombeau, et alors qu'il est sous point devant le tombeau, il y a une scène qui est étonnante qui est en train de se passer, le verset 35 nous dit, Jésus pleura. Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible ici. Ça a de la difficulté à retenir des versets. Celui-là, c'est le verset le plus simple. Moi, j'ai des difficultés avec des versets, et celui-là, j'aime ce verset. Puis, mesdames, je vous invite à retenir ce verset pour le rappeler à vos maris qui font l'effort parfois. Moi, je pleure pas, moi, je suis un homme. Ouais, mais Jésus a pleuré, hein. Vous avez le droit de pleurer, messieurs, devant un film qui est triste. Oh, c'est les allergies. Ouais, ouais. Il faut que tu réalises que Dieu n'est pas insensible à ta souffrance. Quand on lit la vie de Jésus, on voit que Jésus était ému de compassion. Mais il y a quelque chose qui se passait dans ses entrailles quand il voyait la souffrance des hommes, quand il voyait la souffrance de l'injustice, quand il voyait des malades, quand il voyait des lépreux, quand il voyait des aveugles. Il était ému de compassion. Ce qui a fait pleurer Jésus, c'est les larmes des autres. C'est les larmes des autres. Jésus a vécu notre souffrance. Jésus a connu notre souffrance. C'est pour ça que la Bible l'appelle homme de douleur et habitué à la souffrance. On l'a chanté ce matin. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Pas juste à la croix, mais tout au long de sa vie, il a connu tout ce qu'on peut vivre dans notre quotidien aujourd'hui. Hébreux 4, verset 15 nous dit « En effet, notre grand prêtre, Jésus, n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes, que quelqu'un dise toutes. Il a connu toutes nos épreuves. Tout ce que tu vis en ce moment, il l'a vécu. Jésus pleure pour toi. Jésus a compassion pour toi. Jésus ressent ta souffrance. Jésus ressent ta solitude aujourd'hui. Il sait ce que tu vis parce qu'il l'a vécu avant toi. En venant sur terre, Jésus n'a pas vécu une vie où est-ce qu'il a esquivé tous les problèmes. Non, non, merci, c'est juste pour la croix, moi je suis venu. Non, non, il a tout connu, il a tout vécu. Les larmes qui coulent sur ton visage aujourd'hui ont d'abord coulé sur le sien. Jésus pleure parce que tu as été trompé. Jésus pleure parce qu'on t'a abusé. Jésus pleure parce qu'on t'a blessé. Jésus pleure parce que tu es dans la souffrance. Jésus pleure parce que tu es dans une mort spirituelle. Jésus pleure parce que tu as des doutes. Jésus pleure et brisé parce qu'il t'aime. Vous savez, aujourd'hui, de nombreuses recherches montrent que l'un des graves problèmes que la société, que les gens dans la société ont aujourd'hui, c'est que nous vivons tous avec un sentiment d'inutilité au fond de nous. On a tous un sentiment de sentir insignifiant. Je ne vaux rien. Je ne suis pas précieux. Je ne suis pas important. On a tous un sentiment comme ça au-dedans de nous. Mais laisse-moi te dire ce matin qu'on pleure pour ce qui a de la valeur à nos yeux. Si Jésus pleure pour toi, c'est parce que tu as de la valeur à ses yeux. Il faut que tu réalises ce matin, faut que tu le réalises, que tu comprennes que celui qui a créé l'immensité de la création, celui qui a créé la beauté de la nature, la beauté de la création, ce même Dieu-là a les yeux qui sont fixés vers toi, qui sont fixés sur toi parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu comptes pour lui. Et l'amour que Jésus te porte l'empêche de rester immobile. Jésus veut agir parce qu'il t'aime. Puis c'est ce qu'on voit avec Lazare. Alors que Jésus est en pleurs, littéralement en pleurs, devant le tombeau, Jésus s'apprête à livrer un combat contre la mort. Jésus s'apprête à livrer le combat contre la mort. Parce que c'est facile de dire « je suis la résurrection et la vie » si la mort n'est pas là. C'est comme si ce matin je disais, je ne sais pas si vous connaissez Dwayne Johnson, c'est comme si ce matin je vous disais « Hey, Dwayne Johnson, d'un crochet du droit, je le mets KO ce matin. » La première réunion, ils ont rigolé, je n'ai pas compris, puis la deuxième aussi. Vous doutez de moi ? Vous doutez de ma parole ? D'un crochet du droit, je le mets KO, Dwayne Johnson. Facile. Juste une montagne de muscles, mais j'ai un bon crochet. C'est sûr qu'il est KO. Facile à dire. Jusqu'au moment où Dwayne Johnson commence à rentrer dans la salle. Puis qu'il commence à me dire, « Hey, comment mon homme ? Je t'attends. » Là, je peux vous garantir que tout la rangée ici de personnes ne pourront pas m'empêcher de prendre la sortie de secours et de fuir chez moi, rentrer chez moi en criant à ma mère. Facile de dire quelque chose tant qu'on n'a pas l'opposition face à nous. Facile de dire « je suis la résurrection et la vie » s'il n'y a pas la mort. Mais là, Jésus va vers la mort. J'ai proclamé « je suis la résurrection et la vie », je vais te le montrer. Je vais te le montrer. Et alors qu'il se pointe devant le tombeau, Jésus dit « enlevez la pierre qui est devant le tombeau. Enlevez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il doit sentir mauvais, il est dans la tombe depuis 4 jours, c'est pas grave, enlevez cette pierre, je m'en fous s'il pue, j'ai un combat à mener. » Et c'est alors que Jésus cria d'une voix forte « Lazare, sors de là, sors de là. » Quelqu'un qui a dit un jour, heureusement qu'il a dit « Lazare » parce que s'il avait précisé « Lazare » parce que s'il n'avait pas précisé « Lazare », tous les morts seraient sortis en même temps. « Lazare, sors de là !» Et le mort sortit. Et le mort sortit. Les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé de linge, parce que c'était comme ça qu'on embaumait les gens à l'époque. Puis Jésus dit à toute la foule qui était autour de lui, « Allez les détacher, allez, détachez-le et laissez-le s'en aller. » Jésus a vaincu la mort. Jésus a prouvé qu'il était plus fort que la mort. Puis ce miracle-là, c'est comme le teaser d'un film qui va sortir prochainement. Vous savez, les teasers, on vous donne un petit goût comme ça, tiens, goûte ça, puis regarde ce qui s'en vient dans quelques semaines. Ce miracle-là, c'est comme un teaser de ce qui va s'en venir à Pâques, mais comme un teaser de ce qui va s'en venir lorsque Jésus va revenir. C'est un teaser. Mais c'est aussi le lancement du compte à rebours vers Pâques. C'est le lancement d'un compte à rebours qui va diriger Jésus vers Pâques. Parce que tout de suite après ce miracle, le complot contre Jésus commence. Le complot pour faire tuer Jésus commence. En faisant ressusciter Lazare, Jésus lançait le compte à rebours de sa mort à la croix. Littéralement, c'est comme si Jésus disait « Lazare, sors parce que je vais devoir y aller à ta place. Je vais devoir prendre ta place dans le tombeau. » Et Lazare n'avait pas d'autre choix. Jésus était sa dernière option. Jésus était sa seule option. Lazare ne pouvait pas revenir à la vie par ses propres forces. Ça aurait été difficile de dire à Lazare, « Hey Lazare, commande, fais des bonnes actions, va à l'église, donne ta dîme, essaie d'être gentil avec les gens pour revenir à la vie. » Il est mort. Il ne peut pas revenir à la vie. Il avait besoin de Jésus. Tout comme nous, nous avons besoin de Jésus. C'est exactement la même chose pour nous. Nous sommes incapables de nous débarrasser de nos péchés, de nos erreurs, de notre mort spirituelle par nos propres œuvres. On est mort. On est mort sans Jésus. On n'a aucune autre solution que Jésus vienne prendre notre place. Aucune autre solution que ça. Malgré nos bonnes actions, ce n'est pas ça qui nous ramènera à la vie spirituellement. Malgré nos bonnes œuvres, ce n'est pas ça qui nous ramènera à la vie spirituellement. C'est pour ça que Dieu est venu parmi nous. Jésus, c'est Dieu qui est devenu un homme. Jésus est né en tant qu'homme et il est né d'une vierge. Et c'est tellement important qu'il soit né d'une vierge parce qu'en naissant, Jésus n'a pas hérité de la nature pécheresse et humaine comme nous l'avons eu. Mais en étant né d'une vierge, il est né avec la nature divine de son Père Céleste. Fait qu'il a pu être parfait, sans péché, sans défaut. Jésus a vécu une vie sans faire un mot de travers, sans dire un mot de trop, sans avoir une mauvaise pensée contre quelqu'un, sans avoir envie de se venger. Jésus a parcouru la vie sans avoir fait quelque chose de mal. Jésus devait être parfait, parce que le sacrifice pour nos péchés devait être parfait. Un coupable condamné ne peut pas prendre la condamnation d'un autre coupable condamné. Ça prend un innocent. Un innocent qui dit « Moi, je vais payer sa place. Moi, je vais prendre sa place. » C'est ce qu'a fait Jésus. Le vendredi. Le vendredi de Pâques. Il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans, Jésus a été arrêté injustement. Jésus a été condamné injustement. Jésus a souffert le martyr, une souffrance qu'on ne peut même pas imaginer. Jésus a vécu l'humiliation. Jésus a connu la croix. Jésus a connu la mort qu'on était censé vivre, que j'étais censé vivre. À la croix, Jésus a souffert physiquement parce que tous ses nerfs, toute sa chair, tout était à vif. Il saignait pour toi, il saignait pour moi. Il a souffert physiquement, mais il a souffert aussi spirituellement parce qu'alors qu'il est pendu à la croix, nos péchés étaient en train de tomber sur lui. Notre condamnation était en train de tomber sur lui. Il était en train de payer tes péchés, mes péchés, présents, passés et futurs. Jésus à la croix était en train de tout payer. De tout payer. Alors qu'il se tient à la croix, après des heures de souffrance, des heures d'humiliation, des heures de crachat, de rejet, Jésus a levé les yeux vers son Père et lui a dit « Tout est accompli. Tout est accompli. Tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. » Tout ce que tu m'as demandé de porter, je l'ai porté. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Alors maintenant, reçois mon esprit. Et à ces mots, Jésus a donné son dernier souffle de vie. Jésus a soupiré une dernière fois. Le cœur de Jésus s'est arrêté. La mort a frappé Jésus comme une vengeance de ce qui s'était passé avec Lazare. T'as gagné contre Lazare, c'est à moi de gagner maintenant. Et alors que Jésus vient de soupirer pour une dernière fois. La Bible nous dit que la terre a commencé à trembler, que la terre a commencé à être recouverte d'une obscurité, comme si toute la création était dans le deuil en voyant que le Fils de Dieu était mort. Le premier jour, Jésus est mis dans le tombeau. Ce n'est plus Lazare qui est dans le tombeau, c'est Jésus qui est dans le tombeau. Et on roule la pierre. Il n'y a plus d'espoir, plus de vie. Deuxième jour, tout le monde est déprimé. Tous ses disciples, tous ses amis qui l'ont entendu, qui l'ont suivi, étaient comme Marie, étaient comme Marthe, au fond du trou, sans comprendre ce qui se passait, sans voir, sans réaliser qu'il était en train de se passer quelque chose d'extraordinaire. Pour eux, c'était fini. La vie est morte. L'espoir est mort. Il n'y a plus rien. Mais à l'aube du troisième jour, la pierre a roulé. Et celui qui a vécu la mort le vendredi est revenu à la vie. Jésus est ressuscité le troisième jour. Le tombeau est vide. L'œuvre de Jésus est accomplie parfaitement. Jésus a payé le prix pour nos péchés parfaitement. La mort a été vaincue définitivement par celui qui a déclaré un jour « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu que Dieu a tant aimé, t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi afin que si tu mets ta foi en lui, tu ne connaisses pas la mort, mais que tu aies la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour changer les mauvaises personnes, pour les rendre meilleures, pour faire de bonnes personnes. Jésus est mort et ressuscité pour donner la vie à des personnes qui sont mortes spirituellement. Jésus est mort pour toi, pour te donner la vie spirituelle. Dans quel état tu es ce matin? Il y en a aujourd'hui, t'es mort spirituellement. T'es mort spirituellement. demeure dans ta foi, ta confiance en Dieu. T'as cru un jour, mais c'est mort maintenant. Il n'y a plus rien. Là, vous êtes mort à cause des délais. Dieu n'a pas répondu à tes attentes alors. Non, j'abandonne. J'arrête. Je ne veux plus espérer. Là, ce matin, vous êtes dans le tombeau. Comme Lazare. Comme moi, je l'ai été avant. Et ce matin, Jésus t'appelle à sortir du tombeau. Ce matin, Jésus t'appelle à sortir du tombeau. Ce matin, Jésus va être ta résurrection. Ce matin, Jésus va être ta vie. Mais est-ce que tu vas lui obéir? Est-ce que tu vas répondre à son appel? Il y a plus de 2000 ans, Jésus criait « Lazare, sors de là !» Et tu peux mettre ton nom à la place du mot « Lazare ». Il y a quelques années de ça, Jésus disait « Florian, sors de là !» Quelques années de ça, Jésus disait « Jérémie, sors de là !» Ginou, sors de là !» David, sors de là! Emmanuel, sors de là! Jésus, dis ton nom ce matin encore. Sors de là! Sors de là! Et Lazare aurait très bien pu dire non merci. Je reste au frais. Pas besoin de climatisation ici, il fait bon. Non, Jésus, je veux pas sortir de là. Tu m'as déçu. T'es pas venu au moment où je m'attendais à ce que tu viennes. Je reste là. Je ne te redonne plus ma confiance. Je ne sors pas. Je ne veux pas sortir. Tu m'as déçu. Lazare aurait pu dire, mais Jésus, ça fait 4 jours que je suis là-dedans. Je pue. Je sens mauvais. Ce que j'ai fait, j'en ai honte. J'ai honte de qui je suis. J'ai honte de l'odeur que je dégage. J'ai honte de mes pensées. J'ai honte de mes actions. J'ai honte de qui je suis. Comment est-ce que tu peux m'appeler à sortir vers toi? J'ai honte. Je ne peux pas y aller. Lazare aurait pu dire ça. Mais Lazare est sorti. Et ce qui est fort ici, c'est que Jésus a appelé la communauté à enlever les bandages. Et ce matin, si tu es là et que tu dis « Jamais plus je veux revenir à l'église », aujourd'hui, c'est une exception. Jamais plus je veux revenir à l'église. Laisse-moi te dire que Jésus peut amener la résurrection dans ta vie, mais il veut utiliser l'église pour enlever tes bandages. Tu ne peux pas te passer de l'église. Tu ne peux pas te passer de l'église. Jésus peut amener un miracle extraordinaire, mais il utilise l'église pour te restaurer. Tu ne peux pas te passer de l'église. Passe pas à côté de cette vie ce matin. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus connaît tes doutes, Jésus connaît tes peurs, Jésus connaît tes angoisses, ta honte, ta culpabilité, tout ce qui est collé à toi, qui pue, toute ta culpabilité, tu n'oses même pas lever les yeux vers lui. Tu dis, c'est impossible qu'il voudra de moi. Jésus te veut. Jésus pleure pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Ce n'est pas les clous qui retenaient Jésus à la croix, c'est toi, son amour pour toi. Il faut que tu mettes ta foi en lui. Sors de ta condition. Sors de ton tombeau. Sors. C'est une question de vie ou de mort ce matin. C'est une question de vie ou de mort ce matin. Je vais rapidement conclure sur ce point-là. Mais c'est un appel de détresse que je te lance ce matin. Sors de là. Sors de là. Entends cet appel à sortir maintenant. Je pense que vous avez vu cette semaine la catastrophe qui est arrivée à Baltimore où un bateau a frappé un pont. Et le pont s'est immédiatement effondré et il a tué 6 personnes sur le coup. Et alors que le bateau était en train de perdre le contrôle et qu'il se rapprochait du pont, il y a un message d'alerte que le bateau a envoyé à ceux qui étaient sur terre. En mode, fermez le pont là, fermez le pont, on va le heurter, fermez le pont. Et cet appel a probablement sauvé la vie à des centaines de personnes parce que les autorités ont réussi à fermer le pont. Mais 6 personnes n'ont pas répondu à cet appel. 6 personnes n'ont pas répondu à l'appel « Sortez du pont ». Et elles sont mortes lors de l'effondrement. Le pont de ta vie à un moment donné va s'effondrer. Le pont de ta vie à un moment donné va s'effondrer. Et Jésus te dit ce matin « Sors de là, tant qu'il en a encore temps. Sors de là. » Sors de ton tombeau. Sors de ce pont. Sors de cette situation-là. Sors de cette misère-là. Sors de là. Réponds à l'appel que je te lance. Réponds. Jésus est venu pour sauver ta vie ce matin.